Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment, 6 heures?
Bonjour à toutes et à tous, merci de vous réveiller avec France Culture. Nous sommes le mercredi 9 décembre 2015. Dans un instant, on retrouve Nikita Rich, notre tête chercheuse de la semaine, l'historien du chocolat. Lundi, nous racontait le fruit originel. Hier, il nous expliquait comment le cacao a traversé l'Atlantique. Aujourd'hui, le cacao va se transformer en industrie en Europe en se mélangeant au sucre. Dans un instant, donc, le troisième épisode. Et puis, en deuxième partie, cinéma, avec la sortie du premier film d'Orel San, le rappeur qui est déjà là avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Comme quoi, les rappeurs se lèvent tôt ou se couche très tard, c'est ça plutôt?
Ouais, exactement.
Généralement.
Ça dépend. Non, des fois je me lève tôt, des fois je me couche tard, et ça dépend. Il y a toujours des trucs à finir la veille pour le lendemain et tu te couches tard, ou des fois faut se lever tôt parce que on travaille.
Donc vous êtes en plein promo de votre premier film, vous savez dans quelle radio vous parlez là aujourd'hui?
France Culture, c'est ça?
Ouais, ça vous arrive d'écouter France Culture?
Non, pas trop. J'écoute pas trop la radio.
Ouais, pourquoi?
Non. Parce que, je sais pas, je mets mes disques. En général, les seuls moments où j'écoute la radio, c'est dans le taxi, je crois. Mais ouais, non, j'ai pas le réflexe d'écouter la radio, bizarrement.
Bon, vous restez avec nous. Tout de suite, c'est Nikita Rich qu'on retrouve. Le chocolat, toute une histoire par Nikita Rich. Historien, spécialiste des civilisations d'Amérique latine, membre de l'Académie française du chocolat et de la confiserie, vous avez dirigé la première encyclopédie du chocolat et de la confiserie qui vient de sortir, Nikita Rich. Vous êtes notre tête chercheuse pour nous parler du chocolat, de l'histoire du chocolat. On a commencé par parler, bien sûr, du cacao en Amérique centrale, comment il a traversé l'Atlantique. Aujourd'hui, troisième épisode, naissance d'une industrie. Et c'est l'histoire du chocolat au 18e et 19e siècle, parce que cette fois-ci, ça y est, le chocolat va devenir une friandise. Mais comment, justement?
Eh bien, pour cela, il y a toute une série d'innovations techniques qui permettent, depuis le milieu du 18e siècle, de travailler de plus grandes quantités de pâtes de chocolat et aussi de joindre les avancées techniques de la révolution industrielle au traitement de la pâte de chocolat, en particulier avec la force hydraulique d'un côté et aussi avec les machines à vapeur. Il n'est donc pas étonnant que le premier pays à avoir véritablement sauté le pas en termes d'une industrialisation du chocolat ait été justement l'Angleterre, où on peut dire que la première entreprise à caractère industriel du chocolat est née dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, en particulier dans la ville de Bristol, à l'ouest, au sud-ouest de l'Angleterre. Et ce n'est pas un hasard parce que un des premiers clients de cette entreprise, qui a été créée par un certain Joseph Fry, était la marine britannique. Et Fry avait réussi à convaincre, n'avait pas besoin d'être vraiment convaincu, l'amirauté et les membres de l'amirauté que servir une ration de boisson de chocolat tous les jours aux marins était une bonne chose. Et en fait, c'est une tradition qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Vous servez dans la Royal Navy, vous avez droit à un pot de chocolat tous les jours, si vous le souhaitez. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas, c'est prévu. Et donc, à partir de cette utilisation industrielle de la boisson de chocolat, d'autres applications ont pu voir le jour. En particulier des techniques de confection de pastilles de chocolat, de bonbons de chocolat et l'utilisation de chocolat pour fabriquer des desserts, que ce soit au niveau de la crème glacée, des gâteaux, etc. À partir de cette première révolution anglaise, je dirais le deuxième pays à avoir sauté le pas en termes d'industrialisation du chocolat, c'est la France. Avec la création des premières grandes chocolateries, l'une des plus emblématiques est celle de Meynier, qui se crée dès les années 1820, et qui, au départ, finalement, est une dépendance. Meynier était apothicaire de profession, alors le chocolat était encore pour lui un médicament, mais finalement, ça va prendre une très grande importance, et l'installation initiale de Meynier se fait à Noisiel, un petit village de Seine-et-Marne, où se trouvent encore les installations d'une immense usine fabrication qui verra le jour dans la seconde moitié du 19e siècle. Alors, ce développement de l'industrie chocolatière, d'abord, s'accompagne d'une augmentation de la production de cacao et de sucre, qui se démocratise avec le sucre de betterave, et deuxièmement, disons de l'abandon d'un préjugé, celui qu'on ne peut pas donner de chocolat aux enfants. Finalement, on trouve que c'est une friandise tout à fait saine, et finalement, le marketing aidant, on s'attache au public de l'enfance.
Mais avant de parler du marketing, parce que c'est très intéressant, est-ce à dire, Nikita Arvitch, que le chocolat, qui jusque-là était réservé à des classes aisées, va devenir populaire à ce moment-là?
Bon, populaire serait peut-être un grand mot. Ça reste quand même quelque chose de relativement onéreux. Mais le coût, certainement, va baisser. D'abord parce que la production industrielle fait baisser les coûts. Ensuite, parce que le sucre, maintenant qu'on le produit en Europe, également voit ses coûts baisser. Et parce que aussi toute une série d'épices qu'on mettait dans le chocolat et qui en renchérissaient le coût sont maintenant éliminées. C'est essentiellement maintenant du cacao, du sucre, un petit peu de vanille si on veut, et vogue la galère, comme qui dirait. Et donc cela permet de produire davantage au niveau à la fois de la poudre de cacao et de la tablette de chocolat telle que nous la connaissons à peu près aujourd'hui, qui voit le jour vers 1850, mais qui n'aura sa texture définitive qu'à partir d'une autre innovation technique qui, elle, est le fait d'un pays dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui va prendre une grande importance dans la production de chocolat, c'est la Suisse.
Mais pour l'heure, ça se joue entre Londres, Paris et peut-être une troisième ville en Italie, Turin.
Turin, oui, bien que Turin, disons que la spécialité de l'Italie, c'est de la préparation d'un mélange de chocolat et de noisettes. C'est ce que les Italiens appellent le gianduja. Mmh. Et qui est finalement va faire l'emblème, enfin qui va être l'emblème de la chocolaterie turinoise. Avec, disons, toutes les applications que nous connaissons encore aujourd'hui, surtout dans le domaine de la pâte à tartiner. Mais au départ, le gianduja est un bonbon de chocolat qui apparaît en effet dans la première moitié du 19e siècle et qui associe pâte de noisette et pâte de chocolat. Le pays quand même qui va révolutionner dans la seconde moitié du 19e siècle la technologie de préparation du chocolat, c'est la Suisse, avec deux éléments fondamentaux. Un, le chocolat au lait, c'est-à-dire l'utilisation de poudre de lait pour préparer du chocolat au lait. Et deuxièmement, la technique du conchage qui permet de donner à la pâte de chocolat, sa texture, son velouté, tel que nous le connaissons maintenant. Et ça, c'est une invention, dit-on, accidentelle, mais enfin bon, allez savoir si c'est vrai ou non, mais en tout cas une invention avérée en 1875 de la part de Rodolphe Lindt, qui était chocolatier.
Et entre le 18e et le 19e siècle, est-ce qu'on peut dire que la consommation du chocolat est mondiale ?
Non, ça, ce serait une exagération de le dire. Elle se concentre dans certains pays d'Europe occidentale, essentiellement au niveau de la consommation par tête d'habitant, dans des pays traditionnels comme l'Espagne, mais où on consomme surtout le chocolat en tant que boisson, et dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, ou les provinces allemandes et après l'Allemagne et le nord de l'Italie. Les États-Unis, par exemple, découvrent le chocolat au début du 19e siècle, mais n'en consomment pas beaucoup. Ça, véritablement, la grande industrie états-unienne du chocolat est plus du 20e que du 19e siècle.
Et s'il fallait faire un retour aux sources, ce chocolat, cette boisson plutôt amère que consommaient les Mayas, les Aztèques, est-ce que au 19e siècle, ils vont découvrir ce chocolat avec un goût sucré?
Oui, disons que le chocolat avec du sucre s'est imposé rapidement dans toute l'Amérique en termes de consommation traditionnelle, et c'est comme ça qu'on le consomme encore à l'heure actuelle. Alors, vous parliez de la consommation de chocolat en Amérique. Eh bien, paradoxalement, jusqu'au milieu du XXe siècle, c'est une consommation extrêmement traditionnelle. C'est le chocolat boisson. Et c'est comme ça qu'il est encore consommé majoritairement dans certains pays d'Amérique latine, dont le Mexique, dont la Colombie par exemple, un peu moins le Brésil. Mais disons que la culture du bonbon de chocolat est également quelque chose de récent pour l'Amérique. Mais la boisson sucrée, ça a été adopté d'emblée.
Est-ce qu'il y a différentes formules de chocolat au début du 19e siècle entre par exemple Londres, Paris, Turin?
Oui, il y a différentes formules dans la mesure où très tôt, on a pu faire la différence entre différentes variétés de cacao. Bon, il y a le cacao fin aromatique, auquel on donne traditionnellement, à cette époque, le nom de cacao carac, c'est-à-dire c'est un nom qui vient de Caracas, la province du Venezuela, dont était issu ce cacao fin. On parlait aussi du cacao des îles, qui était considéré comme un peu moins aromatiques, et une variété, disons, de cacao plus ordinaire, qu'on appelait le cacao maragnan, du mot maragnon, qui est le nom de l'Amazone, le premier nom du fleuve Amazone, qui lui était un cacao plus ordinaire. Et ça, ce sont les trois grandes variétés dont on avait conscience au début du 19e. Puis avec le temps, on commence à faire des classements. On a donné au cacao fin aromatique le nom de criollo, qui est toujours le sien à l'heure actuelle. Au cacao amazonien, le nom de forastero, qui est toujours le sien à l'heure actuelle. Et entre les deux, un hybride qui a été mis au point dans l'île de la Trinité, auquel on donne le nom de Trinitario. Ce sont les trois grandes variétés, grosso modo, qui existent encore à l'heure actuelle.
Mais de là à dire que les puissances de l'époque, européennes de l'époque, vont se partager le chocolat avec, pour chaque pays, une forme, une nature du cacao, c'est peut-être pas vrai.
Non, disons que, tout en reconnaissant la supériorité des cacaos fins aromatiques, le chocolat produit au 19e siècle est essentiellement le fruit d'un mélange, c'est-à-dire le cru d'origine. Bon, on en a conscience, mais on ne le pratique pas. On fait des mélanges. Mais ce que vous dites est vrai dans la mesure où l'accroissement de la consommation du chocolat va montrer un regain d'intérêt pour la culture du cacao, et c'est ce qui va originer le grand transfert de la culture du cacao qui s'opérera dans la seconde moitié du 19e siècle de l'Amérique vers l'Afrique. Tout d'abord vers les îles du golfe de Guinée, l'île de São Tomé, l'île de Príncipe, l'île de Fernando Po, puis ensuite sur le continent lui-même où les premières plantations voient le jour dans les années 1880. Sur le Gold Coast d'abord, enfin l'actuel Ghana, puis dans les zones de l'actuel Nigeria et Côte d'Ivoire. Mais le cacao africain ne va véritablement entrer en scène que au moment de la Première Guerre mondiale, juste après la Première Guerre mondiale, parce qu'il faut quand même un certain temps pour développer une plantation. Vous savez, le cacaoyer, nous avons omis de le dire, quand on le plante, il faut attendre 5 ou 6 ans avant qu'il ne commence à produire. Et véritablement, la production importante n'est atteinte qu'au bout d'une dizaine d'années. Donc, il faut le temps.
L'intérêt commercial est maintenant évident. On verra demain comment le chocolat va devenir un enjeu géopolitique. Et on verra aussi comment il va passer de l'Angleterre à la Suisse et de l'Amérique centrale à l'Afrique à demain.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et on retrouve Aurélien Cotentin. Alors, vous n'êtes pas très connu en tant qu'Aurélien Cotentin.
Non, c'est pourtant mon nom.
Et c'est pourtant votre nom. Est-ce que vous allez l'utiliser, Orelsan? Parce que je rappelle que vous êtes d'abord rappeur et très connu en tant que rappeur. Est-ce que vous allez l'utiliser dans votre nouvelle carrière de cinéma qui commence aujourd'hui? Puisque aujourd'hui sort votre premier long métrage au cinéma. Comment c'est loin?
Bah non, je crois pas. Je me suis posé la question. Mais en fait, je me dis que j'ai commencé sous le pseudonyme Orelsan et je vois pas pourquoi je change. Au bout d'un moment, même si au final ça reste moi.
Oui, mais je me suis dit, vous signez des deux noms hein, pour votre film. Hein.
Signe des deux noms. Mais oui, non, je sais pas, je sais pas, c'est des questions un peu de schizophrénique, bizarre.
Comment c'est loin, c'est le titre de votre film qui ne ressemble en rien à tous les films estampillés hip-hop, films de rappeurs ou sur le rap qu'on a pu voir. Alors reprenons un peu le sujet de votre dernier album, c'est l'histoire presque heure pour heure de deux musiciens rappeurs qui ont du mal à se concentrer sur leur musique. Deux types qui ont d'ailleurs un certain talent, mais ce sont plutôt deux types du genre aquaboniste. Bah oui, à quoi bon terminer un travail ou une chanson? Ne serait-il pas mieux de se contenter d'une paisible vie de province en partageant les mêmes galères que les jeunes trentenaires qui refusent de voir le temps passer? Alors, le plus drôle dans cette comédie réussie qui lorgne aussi bien vers Tati que vers les frères Cohen, c'est que la question est bien posée. La musique, c'est bien, mais quand elle se conjugue avec la flemme, l'errance, la liberté, pas quand elle est conditionnée par les maisons de disques, par l'obligation de rendre des maquettes à des deadlines précises.
Ouais, c'est vrai que c'est des questions que je me suis souvent posées, quoi. Après, y a un moment où c'est deux mecs qui sont en période de transition et tu sens qu'ils utilisent pas mal de prétextes pour avoir la flemme, en fait, pour cautionner leur flemme. Ça veut dire, c'est deux types qui approchent de la trentaine, ils font de la musique depuis 10 ans. Et un jour, ils se rendent compte qu'ils n'ont jamais fini un seul morceau. Et c'est ça le vrai problème de ces mecs-là, c'est qu'ils finissent jamais rien, quoi. Et ils ont beaucoup de prétextes pour ne rien faire.
Oui, parce qu'ils refusent, en réalité, de vieillir.
Un peu, c'est ça. Ou ils refusent de se prendre au sérieux. Ou ils ont peur aussi. Ils ont peur de l'échec. Ils ont même peur de la réussite. T'as un des deux personnages, Aurel, celui que je joue, qui ne s'était même pas rendu compte qu'ils n'avaient jamais fini un morceau parce qu'ils procrastinent, en fait.
Est-ce que pour vous, Orelsan, c'était aussi une manière de dresser le portrait d'une génération?
Un peu. Après, c'est pas des choses qui sont faites vraiment volontairement. Je me dis jamais quand j'écris, oh, je vais dresser le portrait d'une génération. Après, je m'inspire beaucoup de moi et de mon entourage, bien sûr, même si ça reste une fiction et que c'est une comédie. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent qu'on ressent ça. Mais c'est quelque chose qui est peut-être voulu quelque part, mais c'est plus inconscient que vraiment conscient. Je pense que si quelqu'un fait un film en se disant « je vais faire un film générationnel », il se plante. On ne peut pas vraiment le faire volontairement, je pense que c'est quelque chose que...
Alors comment vous avez écrit cette histoire, Orelsan?
Donc à la base, on avait fait un album avec Gringe qui s'appelait Orelsan et Gringe sont les casseurs flotteurs. Et on avait fait des petites interludes dans cet album, donc des interludes jouées, qui étaient jouées sans caméra. En gros, on avait des micros, on faisait pareil qu'on a fait dans le film. Et l'album a plutôt bien marché. Et mon producteur de spectacle, Olivier Poubelle d'Astérios, m'a dit, après qu'on ait sorti l'album, « Ouais, j'aimerais bien l'adapter en film, je suis prêt à le produire, etc. » Moi, j'avais jamais vraiment, vraiment écrit de scénario de film. J'avais quelques notions, parce que je m'étais amusé à écrire quelques trucs. Et je lui ai dit, bah écoute, je prends 3 mois pour écrire un brouillon, quoi, une première ébauche. Et à partir de cette ébauche, on verra si ça peut être envisageable ou pas. Et donc voilà, j'ai pris 3 mois pour écrire. Et au début, j'ai un peu jeté un peu dans tous les sens ce que j'avais dans la tête. J'ai écrit un gros pavé quand même, un truc de 160 pages, un truc comme ça. Et puis à partir de cette ébauche, on a rebossé encore pendant un an et demi. On a refait une douzaine de versions. J'ai Christophe Offenstein qui m'a aidé à réaliser le film, et Stéphanie Murat qui sont venus m'aider à adapter sur les 2 derniers mois. Parce qu'il y avait plein de trucs que je connaissais pas, c'est pas si simple que ça.
Ce n'était pas un clip, hein, pour une fois.
Non.
Parce que je sais que vous faites les clips, c'est vous-même qui les faites.
Ça dépend lesquels. Ceux qui sont compliqués avec des effets spéciaux, en général, c'est quelqu'un qui s'appelle David Tomaszewski. Mmh. Et les clips un peu concept, à caméra grand angle, caméra un peu amateur, GoPro et tout, en général, c'est moi. Mais là, il a fallu passer plus à la réal, quoi.
Bon, est-ce que vous aimez le cinéma, Orelsan? Et quel genre de cinéma vous aimez?
J'aime beaucoup le cinéma. Après, je suis pas non plus un cinéphile collectionneur fou qui connaît tout. Moi, le genre de cinéma que j'aime bien en général, c'est le cinéma indépendant américain des années 90-2000.
Par exemple, des noms?
Par exemple, les films de Kevin Smith ou les films de Noah Baumbach, de Richard Linklater, évidemment Tarantino et compagnie. Mais enfin, c'est une partie des trucs que j'aime bien. Après, moi, j'adore les comédies, j'adore Will Ferrell, j'adore Ben Stiller. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand un film, il est fidèle à... Comment dire? J'aime bien les films cohérents. Ça veut dire, pour moi, un film ou de la mise en scène, c'est pas forcément un camera work énorme, ou c'est pas forcément un scénario plein de rebondissements, ou c'est l'ensemble de plein de choses, quoi. Des fois, il y a des films où peut-être ça va jouer un peu moins bien que dans d'autres, mais ça va plus me parler. Et j'aime bien quand on apporte une cohérence. C'est ce que j'ai essayé de faire avec mon film. C'est-à-dire, c'est l'histoire de mecs qui trompent l'ennui, l'histoire de mecs qui font pas grand-chose. Et par exemple, je pouvais pas les filmer avec une caméra qui bouge dans tous les sens, etc. C'est pas un James Bond, quoi.
Non, c'est un buddy movie.
Ouais, voilà, c'est ça. Buddy movie, comme disent les Américains. C'est une comédie un peu musicale aussi, donc il fallait...
La notion de copain est très importante vraiment pour vous, Orelsan? Est-ce qu'on peut dire que c'est un film copain, entre copains?
C'est ce qu'ils appellent une bromance, en fait, une romance entre gars, quoi.
Ouais.
Et pour moi, c'est super important, la notion d'amitié, et c'est ce que je voulais raconter dans ce film. Et c'est quelque chose qui a été fait dans beaucoup de films, mais pas... Je trouve que
là, vous poussez quand même l'ambiguïté assez loin, puisqu'à un certain moment, l'histoire d'amour, c'est un subterfuge du meilleur copain. Quoi.
Ouais, à un moment,
sans spoiler le film, on peut le dire.
C'est vrai, à un moment, on est limite.
Ouais.
Mais c'est rigolo parce que j'aime bien les histoires d'amitié depuis Rocks et Rookies de Walt Disney. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et puis. Voilà, je sais pas, j'avais envie de raconter cette histoire aussi parce que Gringe, qui joue avec moi, j'ai toujours su qu'il avait un super talent d'acteur, quoi. Depuis qu'on a toujours fait des petites vidéos et tout, je me suis toujours dit, j'aimerais bien faire un film avec ces deux protagonistes. Puis j'aime bien les buddy movies aussi en général. Je trouvais qu'il n'y en avait pas assez de buddy movies à la française.
Et c'était important que ce soit dans une ville de province, que soit fidèle un peu à votre carrière de rappeur des champs. Je me souviens que quand vous avez commencé, l'expression rappeur des villes, rappeur des champs, c'est imposé à cause de vous ou grâce à vous, je sais plus.
C'est vrai qu'on en a parlé. J'aimais bien représenter ces villes de province parce que j'avais l'impression qu'on les avait pas souvent vues sous cet angle. Le film se passe à Caen. C'est l'histoire de deux mecs qui vont avoir 30 ans et le fait qu'ils soient dans ce genre de ville où ils ont toujours vécu, qui est pas une trop petite ville, donc tu t'ennuies pas tellement que ça, mais qui est pas non plus une grande ville, je trouve qu'ils sont...
Enfin, la grande sortie, c'est d'aller au centre commercial.
Ouais, mais par exemple, quand t'habites à Caen, il y a des centres commerciaux à chaque extrémité. Je crois qu'on a le plus de centres commerciaux en Europe en proportion. On m'avait dit ça. Et du coup, j'avais envie de parler de ces deux personnages, mais ça se passe à Caen, comme ça pourrait se passer à Dijon, à Angers, à je sais pas où, j'arrive plus à trouver des noms de villes, à Beauvais, à Rennes, à Lens.
Mais vous vous rendez compte que votre film, Commencez loin, c'est vraiment l'antithèse de tous les films de hip-hop qu'on a vus.
C'est un peu ce que je voulais faire.
Ouais. Pourquoi?
Parce que je voulais pas faire un film nécessairement de hip-hop, justement, parce que ces deux personnages-là, ils font du rap, mais ils font du rap dans une ville qui est Caen, et c'est des mecs, je veux dire, leurs personnages n'ont rien à voir avec le rappeur classique. Le rap, c'est né à Brooklyn, quoi. Là, on est à Caen, ça n'a rien à voir. Et je voulais... Et puis... Perso, je voulais pas forcément faire ce genre de cinéma un peu premier degré sur l'ascension d'un groupe de rap et tout, c'est pas...
Comment c'est loin, le film d'Aurel San, d'Aurélien Cotentin, si vous préférez, sort aujourd'hui. Et à cet effet, il va se prêter au jeu du questionnaire de l'autre jour. Trois questions à choisir, Aurel San.
Ok. Est-ce que vous dansez? Heureusement qu'on est à la radio, j'aurais flippé qu'on me fasse danser. Non, je danse pas, je danse très mal. Et je sais pas, j'aime même pas vraiment bien danser. À la rigueur, tout seul chez moi, mais en public, non, c'est pas mon truc.
Pourquoi? Timidité ou
ouais, non,
un drôle de rapport, ou c'est le rapport que vous entretenez avec votre corps qui...
Ouais, c'est ça. Peut-être que je suis trop concentré sur la musique ou quoi. C'est plus le rapport à mon corps, quoi. Genre, j'associe pas musique et bouger mes pieds. À la rigueur, le haut du corps bouge à peu près. C'est tout ce qui est en bas où j'ai du mal à faire bouger ça, mais et puis une petite part de timidité. Je sais que des fois il y a ce jeu sur PlayStation Just Dance là, je suis capable de me barrer et dire non, je le fais pas, je sais pas, j'associe un truc bizarre à la danse, ça me fait peur.
Deuxième question.
Pour quel personnage de BD avez-vous le plus de sympathie? Alors moi, je lis beaucoup de mangas. Il y a plein de personnages de BD qui me provoquent de la sympathie. En ce moment, je relis un manga qui s'appelle Slam Dunk, que j'ai beaucoup lu. Et le personnage de Sakuragi Hanamichi, j'aime beaucoup. C'est un mec qui est une sorte de génie, mais en fait, qui est complètement à côté de la plaque, et qui est super sentimental, qui est une sorte d'ancien loubar qui joue au basket.
Et enfin, troisième et dernière question.
Hop. Dans quel tableau célèbre aimeriez-vous vous projeter? Alors, je n'y connais absolument rien en peinture, mais au point que je suis presque incapable d'imaginer un tableau dans lequel j'aimerais aller, quoi. Je dois connaître quatre tableaux de Picasso et de... J'aurais tellement peur de dire une bêtise.
Merci d'être passé, Aurel San.
Merci beaucoup.
Vous allez nous faire le générique de fin? Vous allez le rapper? Vous allez le lire?
Ah bon, c'est quoi le générique de fin, c'est ça?
Ouais.
Ah. Bah, je vais pas le rapper parce qu'il n'y a pas de rime, mais... C'était un autre jour est possible, une émission de Toufik Hakem, tous les matins à 6h, et quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast, disponible sur franceculture.fr.
Est-ce que vous aimez le chocolat?
Non, pas trop. J'aime bien, mais je suis presque allergique. Le chocolat noir, ça me fait éternuer.
Bon.
Donc, j'en mange pas trop.
Bah voilà. Mais en tout cas, demain, nous, on continue notre histoire du chocolat avec Nikita Harwich.
Salut, Nikita.
Allez.
Un autre jour est possible a été préparé par Anaïs Isbert et Pascaline Bonnet et réalisé par Thomas Duterre. Avec à la technique ce matin, Bernard Laniel. Merci beaucoup.
Merci, Aurelson. Merci tout le monde. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonne matinée sur France Culture.